Le premier point, il y en aura trois. Le premier, c'est des expériences que j'ai faites d'une terre qui donne sens et vérité aujourd'hui, donc qui apporte de la bénédiction grâce au peuple qui l'habite, à la fois au singulier et au pluriel, au peuple qui l'habite, à ceux qui y vont aujourd'hui, sans y habiter, mais en y demeurant comme des étrangers, ce qui est parfois mon cas. Donc des expériences d'une terre qui donne sens et vérité. Deuxième partie, Israël, terre de promesses, dont je ne sais pas encore si j'en ferai la deuxième partie ou la conclusion. Et une troisième partie, qui sera peut-être donc la deuxième, je verrai où j'en suis. Terre de responsabilité. Et ce qui m'est venu en préparant, en travaillant, en étant surtout insatisfait de ce à quoi j'aboutissais, c'est l'idée de terre de repos. Terre promise, terre de la promesse, c'est le fait qu'elle joigne les deux et qu'elle demande, pardon, de construire le lien des deux, de la conviction à la responsabilité. C'est peut-être ça finalement la mission du repos que nous y trouvons, à l'image du Shabbat, qui est peut-être ce temps-là de fête, où en exerçant les responsabilités, en exerçant jusqu'au bout la cohérence avec nos convictions, nous entrons dans la possibilité d'exercer nos responsabilités. Donc, une terre qui donne sens et vérité. Je pars d'un film de Ernst Lubitsch de 1932 qui s'appelle Haute Pègre en français et en anglais, titre original, Trouble in Paradise. Ernst Lubitsch est un cinéaste juif berlinois qui a été invité à Hollywood en 1922, qui était déchu de sa nationalité allemande en 1936 et qui est mort peu après la guerre. Un très grand cinéaste de comédie, dont vous avez sûrement vu l'une ou l'autre comédie. Ce film m'a marqué quand je l'ai vu comme étudiant la première fois. Je me souviens, j'étais à Nancy pour mes études d'ingénieur. Et je n'ai jamais oublié la première scène. C'est un film noir et blanc, évidemment. Il n'est pas muet. Ça parle, donc d'ailleurs, on entend chanter. Et on voit un homme en train de prendre des poubelles et de les conduire pour les jeter. Et la caméra s'éloigne, l'homme chante et on se rend compte qu'on est à Venise. Et que là où il les a jetés, c'est une gondole. Donc on a le travail d'un éboueur sur les déchets de la société, qu'on en produit chaque jour, mais on s'éloigne et en fait on voit que c'est Venise. Évidemment, ce n'est pas la manière dont on parle de Venise d'habitude, hein, la ville des amoureux et du baroque le plus exaltant, la ville de la richesse. Et du pouvoir aussi en Italie. Mais au fond, qu'est-ce que nous dit cette scène qui a une dimension comique, mais comique pour dévoiler quelque chose de très profond et de très réel? C'est que de faire cela, qui est une tâche qu'on fait partout dans le monde, qu'il y ait des gens qui soient dédiés à ramasser les poubelles et à les collecter chaque jour, et s'ils ne le font pas chaque jour, la vie de tout le monde devient compliquée. Cette tâche qui n'a rien d'exaltant, de la faire à Venise, donne à la tâche une dimension qu'elle n'a pas ailleurs, c'est Venise que je garde propre, parce que c'est ma tâche et je gagne ma vie, mais parce que c'est Venise, c'est pour Venise que je le fais. Et en même temps, Venise est elle-même une ville qui produit des déchets et il faut bien assumer cela. Cette scène, j'ai compris le sens qu'elle avait pour moi personnellement, à part le côté un peu comique que ça avait et aussi cette très belle métaphore du travail humble dans un lieu de splendeur. J'ai compris quand je l'ai vue se répéter de mes yeux, elle est revenue à ma mémoire quand elle s'est répétée à mes yeux à Jérusalem, en voyant des éboueurs ramasser les poubelles et les mettre dans le camion benne, il y a 20 ans peut-être. Ce travail d'humilité et d'immense dignité. Être éboueur partout dans le monde, à condition que le salaire soit correct, ça va. Mais quand je suis à Jérusalem, dans un camion benne, et que je vide les poubelles qui, dans les pays méditerranéens, s'accumulent vite, parce que personne ne fait attention là où ils jettent les choses, il faut évidemment vite nettoyer. Ça fait passer ce métier qui peut évoquer en nous une certaine répulsion à la considération pour les personnes, en comprenant qu'elles-mêmes mettent dans ce geste ce qui leur donne de le faire là, avec une grâce, une bénédiction, une force inouïe. Même eux, éboueurs, parce qu'ils sont là et qu'ils sont soit nés là, soit venus là pour l'accomplir, ils rêvaient peut-être d'un meilleur métier, mais c'est celui-là qu'ils ont eu. Ils se sont contraints à entrer dans ce métier, mais une fois qu'ils le font, ils aident, entre guillemets, tous ceux qui les voient et qui peuvent être à leur tour éboueurs ailleurs dans le monde, à le faire là où ils sont, non pas comme une aliénation, je n'ai eu que ce job, mais dans une perception d'utilité et même de gratuité. C'est en tout cas ce qui m'est venu en moi en voyant cela. Et puisque je suis dans cette idée d'une terre qui donne sens et vérité à une action humaine, j'ai eu le même choc en redescendant de l'université hébraïque en bus pour aller là où je logeais dans la ville. Et dans le bus, à l'heure où les étudiants quittent l'université, vous avez aussi des enfants qui sont dans le bus et qui descendent du bus à différentes stations et qui retrouvent leurs parents qui les attendent à la sortie du bus. Et le petit garçon, appelons-le, je ne sais pas, Lévi ou Judas, crie en se jetant dans les bras de son père, « Abba !» Et évidemment, dans la mémoire biblique d'un chrétien, entendant le mot « Abba », se profile aussitôt la profondeur qui est pour lui celle du lien de Jésus à son père, puisque parmi les quelques mots araméens qui nous sont rapportés par l'évangile, il y a celui-là, Abba. Et en même temps, grâce à cette terre, cette parole est naturellement, et non pas surnaturellement comme une révélation, cette parole est celle d'un enfant qui, en sortant du car par lequel il revient de l'école, il salue la joie de retrouver les bras de son père. C'est-à-dire que cette terre signifie la possibilité que l'amour d'un enfant pour ses parents et le savoir que moi j'avais comme étant Toshav Beisraël, en étant accueilli dans cette terre pour pouvoir y découvrir mieux ce que signifie et ma vie chrétienne et l'existence de cette terre, cet amour de l'enfant et ce savoir que j'avais soit juste mélangé dans la vie. C'est la même expérience que j'ai faite quand, cette fois-ci à l'université hébraïque, on est dans l'Ulpan, et qu'il y a des juifs, sinon paragoyens, parce que j'en ai pas vu, mais il y en a à Paris, il y a des juifs argentins, avec plaisir, il y a des juifs italiens, il y a des juifs français, il y a des juifs, et que dans l'Ulpan, où, merci, ces fils d'Israël viennent apprendre l'hébreu ou le perfectionner, en y restant, pour les Américains, ils viennent surtout pour danser et s'amuser, mais enfin quelques-uns sont sérieux. Et le peuple se rassemble dans une langue, parce qu'il y a une terre, dans une langue qui est en cohérence avec non seulement l'hébreu biblique, on le sait, mais aussi avec aujourd'hui des ressources de modernes, et puis avec des ressources de l'hébreu talmudique, et puis etc. Et de l'hébreu inventé par les romanciers d'aujourd'hui. Nourit Aviv a admirablement raconté comment la naissance, comment la vie de la langue aujourd'hui est entièrement modelée par le ressourcement dans toutes les strates de la tradition littéraire d'Israël. Donc cette expérience de rassemblement où la Torah elle-même devient, au sens que les chrétiens ont donné à ce mot de la Septante, une Pentecôte pour ceux qui la vivent, c'est-à-dire la possibilité de partager dans une langue pour tous les juifs du monde leurs expériences personnelles de juifs vivant au milieu des nations. Et je termine par une dernière expérience de sens et de vérité que j'ai faite dans cette terre pour faire entrer dans le sujet terre de la promesse et terre promise. C'est une expérience que j'ai faite à l'occasion de Rosh Hashanah. Je crois que c'était mon deuxième Ulpan, j'en ai fait trois. Et mon professeur à l'université hébraïque me dit, écoute, j'ai un ami juif égyptien que je veux te faire te rencontrer et donc je vais vous inviter tous les deux à dîner pour Rosh Hashanah, mais moi je fais rien. Je fais rien. On n'applique aucun des rites. Bon, la seule chose que je fais, c'est à la fin, la pomme trempée dans le miel. Très bien. Et le thème, c'était que cet homme, juif, éduqué chez les frères chrétiens, dans les frères des écoles chrétiennes, je pense, au Caire dans toute sa vie, étant monté en Israël, se posait des questions existentielles très très fortes sur la question de la souffrance et de Dieu. Donc avait mis une croix sur Dieu dans sa vie à cause de la souffrance des enfants innocents. Et elle pensait qu'on pouvait parler de ça aussi, etc. On fait le dîner, tout se passe bien, et à la fin, on se souhaite une année douce, avec en trempant la pomme dans le miel, tout ça un peu en hébreu, à mesure où je pouvais, mais bon, moi, l'hébreu est la langue qui m'a ouverte à l'apprentissage de toutes les autres langues étrangères, par l'affection que j'ai pour cette langue, et le fait qu'en ayant une affection pour une langue, on entre dans son rythme et dans sa musicalité, et donc, entrant dans le rythme et la musicalité d'une langue, on peut entrer dans toutes les langues, parce qu'une langue, c'est un rythme et une musicalité, avant d'être un sens, et ça, je l'ai reçu là. Et le lendemain, il se trouve que j'étais invité par une religieuse belge, Hanna Kleinberger, qui était un des piliers de la petite communauté hébréophone qui prie de manière catholique, avec tous les immigrants catholiques qui vivent en terre d'Israël, dont la plupart sont des Philippins, qui en sont venus pour travailler dans les familles juives. Et sœur Hanna Kleinberger, elle me dit, écoute, normalement on ne fait pas ça en Israël, mais je te ferai le deuxième soir le repas intégralement selon la tradition de Rosh Hashanah. Donc j'ai eu deux repas de Rosh Hashanah en Israël. J'étais pas grand monde peut-être qui a fait ça. Et les plats qu'elle m'a servis, c'est exactement les mêmes plats et dans le même ordre que mon professeur de l'université me disant mais moi je célèbre, je fais aucun des rites. Voilà. Donc de là je dis qu'une terre comme celle-là, c'est-à-dire c'est une terre où le vivre ensemble permet à chacun, dans tous les écarts qu'il met entre ce dont il a hérité et ce qu'il décide de faire, de vivre ensemble dans la différence. C'est une possibilité de cette existence. En tout cas, c'est comme cela que moi je l'ai traduit dans mon expérience. Ce sont des miettes de sens et de vérité qui m'ont, il y en aurait d'autres, qui m'ont touché, qui m'ont aidé à comprendre qu'est-ce que ça signifie qu'une terre peut être la révélation pour ceux qui y habitent et pour ceux qui sont accueillis par ceux qui y habitent dans cette terre, que partout et toujours, habiter une terre, c'est être aidé par elle à chercher du sens et de la vérité. Chercher du sens, au sens où le mot qui veut dire percevoir, hein, les sens, les cinq sens, c'est ce par quoi nous percevons. Une terre, c'est la capacité de vivre dans toute notre sensibilité, voir, sentir, goûter, entendre, juger, etc. D'incarner notre sensibilité d'être tiré de la Adama dans un lieu qui est en Adama peut devenir Eretz, c'est-à-dire lieu de perception, lieu d'actuation, lieu d'accomplissement de nos facultés perceptives. Mais aussi quête de sens, ça veut dire quête de signification, chercher à comprendre. Une terre, c'est un lieu où on peut chercher à comprendre, qu'on soit éboueur, enfant des écoles, ou étudiant en Ulpan, ou vivant de certains rites religieux ou non de la tradition de ce peuple, ici Israël. Et enfin, je crois que c'est là le plus difficile, une terre comme lieu qui donne du sens, qui donne de chercher le sens, c'est aussi et ultimement une terre qui donne de chercher une direction. Perception, signification, direction. Quelle direction donner au vivre ensemble? C'est peut-être encore plus compliqué que de chercher ensemble le sens de la vie. Parce que c'est de l'ordre de l'acte. Quelle direction je donne à la société, quelle direction je donne à ma vie. Une fois que j'ai goûté par la perception et que j'ai compris le sens qui peut être donné ici à la vie. Alors, donc, ça y est, j'ai fait mon choix. Donc, deuxième partie, une terre de responsabilité. Là, c'est Anna Arendt qui m'a aidé grâce à un texte qui est dans La condition de l'homme moderne. Alors, parler de Anna Arendt ici montre bien que notre préoccupation n'est pas de trouver une parole juste sur le sionisme tel qu'il se vit aujourd'hui et les besoins du peuple d'Israël de trouver des inspiratrices, car elle n'est pas forcément la mieux placée pour cela. Mais ce qu'elle m'a apporté, c'est une autre dimension de son travail philosophique, c'est que pour elle, dans l'ère moderne, le livre s'appelle La condition de l'homme moderne, quand on a un problème de l'ordre de l'agir, de l'action en commun, bref, de la liberté, il ne faut pas chercher à le résoudre par un ordre plus haut. Hannah Arendt se bat contre l'idée qui était celle du monde ancien et dont elle vénère la qualité, que la racine suprême de l'agir, de l'action, du faire, se trouve dans un contempler, dans une prière. Je ne sais pas quoi faire, donc je vais chercher dans la prière l'inspiration de quoi faire. Non. Tu ne sais pas quoi faire, donc tu vas chercher dans le faire l'inspiration du faire. C'est dans l'action que se trouve l'inspiration de l'action. À l'époque moderne. C'est la liberté qui donne de comprendre la liberté. Et elle souligne, et je pense que quand on parle du fait que la Terre donne une responsabilité, elle souligne deux points très difficiles. Elle souligne que quand nous sommes engagés dans des actions, par exemple aujourd'hui en France, nous sommes engagés dans la question de sortir de ce que la crise des gilets jaunes a d'obsédant et d'impasse, en même temps que ce qu'elle a d'ouvrant la mer, la traversée de la mer, et d'éléments de solution. Et elle fait remarquer que ce qui est difficile quand on agit, les problèmes que l'action pose et qu'il faut résoudre, non en disant ben, « je vais, par la réflexion, trouver la solution », non, c'est jamais dans la réflexion qu'on trouve la solution, c'est que l'action est toujours irréversible, agir, c'est introduire de l'irréversible. Si je reste, j'avais pas pensé à ça, mais si je reste dans la question des gilets jaunes, l'arc de triomphe a été profané, c'est irréversible. On peut réparer, mais on ne peut pas faire que ça n'ait pas eu lieu. Donc l'action introduit de l'irréversible, et dit-elle, elle introduit de l'imprévisible. Peut-être que, à part quelques esprits révolutionnaires qui avaient prévu cette action, le fait que finalement l'arc de triomphe ait été profané, la tombe du soldat inconnu, un des lieux de l'unité de la mémoire qu'il a fallu créer pour réconcilier la France avec son destin et avec la République. Pour permettre aux anciens combattants de ne pas devenir tous des fascistes, mais de voir qu'on honorait leur mémoire sans qu'ils aient à devenir le gouvernement français. Si vous reprenez les années d'après la Première Guerre mondiale. Donc, ce lieu était profané. Ce qui est juste, personne ne pensait que c'était possible. C'est imprévisible. Donc, l'action est toujours irréversible et imprévisible. Et elle dit, il faut donc qu'au niveau de l'action, pas en se disant donc on va faire des cérémonies expiatoires, donc on va faire un grand débat pour corriger. Non, c'est au niveau de l'action qu'il faut corriger ça. Et elle dit qu'il faut donc trouver des actes, puisque l'action introduit de l'irréversible et de l'imprévisible. Si on prend l'histoire contemporaine d'Israël ou l'histoire contemporaine de la France, on verra beaucoup de cas où l'action, elle a produit de l'irréversible et de l'imprévisible. Y a-t-il quelque chose de l'ordre de l'action qui puisse nous permettre de vivre après l'irréversible et après l'imprévisible et d'agir? Elle dit oui, il y a deux actes qui permettent quand même d'agir par rapport au fait que l'action est imprévisible, c'est la promesse. La promesse est créer des îlots de sécurité dans un monde qui est celui de l'action où il naîtra toujours de l'imprévisible. Si je promets et que je suis fidèle à ma promesse, j'introduis dans l'avenir des zones stables auxquelles l'action est imprévisible, mais je promets que je ne tuerai pas mon frère. Auxquelles l'avenir est imprévisible, mais je promets que tu verras une terre que je te donnerai. La promesse dans l'imprévisible, et qui est un acte. Et la fidélité à la promesse, c'est un acte. Être fidèle à sa promesse en parole seulement, ça n'est rien. Être fidèle à sa promesse en prière seulement, ça n'est rien. Je promets que les Juifs pourront vivre en France. Ah oui, mais quand ils sont emmenés par les gendarmes, je fais rien. Donc la promesse établit des îlots de sûreté dans l'imprévisible, à condition qu'on la tienne. Il faut que la terre de la promesse soit une terre promise. Il faut qu'il existe une terre. Et si on reste à nouveau proche de ce qui n'est pas notre sujet, bon, puisque ça n'est pas notre sujet, on en reste proche. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël ou ce qui est devenu un peuple palestinien ne sait pas vivre selon une éthique de convivence dans cette terre que le fait qu'elle ait été déclarée en 1948 légalement en droit international terre d'Israël est remis en question. Faut que la promesse reste fidèle, quelle que soit la qualité de ceux qui ont à en vivre. Donc contre l'imprévisibilité, c'est la promesse, et contre l'irréversibilité de l'action, qui introduit des blessures. Et on ne peut pas faire que les mémoires ne soient pas blessées. On ne peut pas faire qu'il n'y ait pas de lourde épée de Damoclès sur nos têtes en raison de ce que l'action a eu d'irréversible. Quand on essaye de créer de l'amitié entre les Juifs et les chrétiens, pensez que puisqu'on a demandé... Puisqu'on a fait l'amitié judéo-chrétienne, il y a l'irréversible de l'action passée n'a pas eu lieu. Ben si, l'irréversible a eu lieu. Donc, elle dit qu'à côté de la promesse, il y a une autre action qui est nécessaire pour pouvoir agir ensemble alors que nous sommes fragiles et que nos actions sont fragiles et quelquefois font le mal. Quelque chose qui permet à chaque génération nouvelle de porter ce qui a eu d'irréversible qui a été fait sur des générations anciennes, c'est ce qu'elle appelle le pardon, la faculté de pardonner, qui est un acte là aussi. Pardonner n'est pas une parole. Demander pardon ou pardonner en parole, ça n'est rien. C'est un agir nouveau, c'est une teshuva, c'est une transformation, c'est une réforme de l'agir qui exprime le pardon. Promesse et pardon comme étant les deux facultés à déployer dans l'action qui permettent, sans sortir de l'agir, et qu'est-ce qu'une terre sinon un lieu où on peut agir, et agir ensemble, on peut faire, qui permettent de faire face aux fragilités justement de l'action et donc aux fragilités de la responsabilité. Ok, si j'ai une terre, j'ai à être responsable de moi et des autres, responsable d'autrui, responsable pour autrui. Ça se traduit par des actes, ok, mais mes actes sont toujours imprévisibles. Donc, être dans une terre, c'est faire des promesses et les tenir. Mais en plus, on ne peut pas effacer le passé. Et dans le futur lui-même, il y aura des blessures que nous ferons les uns aux autres. Donc, être dans une terre, c'est répondre à l'irréversible. Et la seule réponse possible à l'irréversible venant du passé ou qui se produira à l'avenir, c'est d'être engagé dans une logique de pardon. D'être capable non pas d'imposer à l'autre le fardeau, vas-tu me pardonner? Faire peser sur l'autre le poids de ma culpabilité, vas-tu me pardonner? Culpabilité pour culpabilité, si tu ne me pardonnes pas, je te mets ce poids sur les épaules en plus de celui que je t'ai fait en te faisant du mal. Mais de vivre dans une attitude en dehors de laquelle, du fait de l'irréversibilité de l'action, on ne pourra jamais vivre ensemble. Quand j'ai dit ça, c'est là où j'ai besoin d'envisager une troisième catégorie, donc pas simplement la responsabilité qui demande de tenir ses promesses et de pouvoir vivre le pardon, mais c'est de trouver son repos. Si une terre n'est pas un lieu de repos, le sens de la responsabilité dans la terre et pour la terre est trop lourd à porter. La responsabilité est de l'ordre de l'exigence. L'exigence ne permet pas de déployer, de développer sa vie humaine paisiblement. Qu'est-ce que c'est à dire que cette terre est une terre de repos? Et là, je suis allé directement vers les Écritures et j'ai pris uniquement les Saintes Écritures des chrétiens. Écrite par les disciples de Jésus, à la lumière des Saintes Écritures d'Israël qu'ils ont appelées l'Ancien Testament. J'ai trois textes qui me sont venus. Le premier, c'est au chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu, Saint Matthieu, juste un verset, C'est une parole de l'ange à Joseph en Égypte. Ça va? Il lui dit, et c'est la seule fois dans l'évangile où la terre reçoit son nom, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël. Car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Attestation très précieuse qu'au premier siècle, tel était le nom de ce pays, terre d'Israël. C'est au deuxième siècle que ce pays va s'appeler Palestine, quand on voudra faire disparaître, quand les empereurs romains voudront faire disparaître son nom, l'annexant à la province de Syrie. Donc cette terre est le lieu de repos de l'enfant et de sa mère. C'est là où Dieu lui a préparé une place, parce que ceux qui voulaient en voulaient la vie de l'enfant dans cette terre, Hérode le Grand, ne sont plus. Cette terre est devenue le lieu où Joseph peut conduire l'enfant à son repos. Mais ce repos n'est pas encore un repos total et éternel et eschatologique. Les deux versets suivants disent « Mais, apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre en Judée, averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, qui de fait sera souvent le lieu du refuge et du repos des fils d'Israël dans cette terre, quand la Judée leur est interdite. Il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen, qui est une parole non biblique. » Donc cette terre de repos ne l'est pas encore tout à fait quand même. Il faut pérégriner dans cette terre pour y chercher un cadre où pourra se vivre l'enfance de cet enfant d'Israël. Le deuxième texte sur la manière dont se vit le repos dans cette terre, c'est en Saint-Luc au chapitre 9. En fait, il y a peu de textes du Nouveau Testament qui parlent, sauf un très long, par lequel je terminerai, est très exceptionnel. Le deuxième est en Saint-Luc au chapitre 9, le verset 57-58. Donc on dit que Jésus part d'un village pour un autre, qu'en cours d'une route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » On est vraiment dans l'idée de traverser cette terre de bout en bout. « Je te suivrai partout où tu iras. » Le sens de cette phrase, c'est vraiment un sens de parcourir la terre. Et la réponse de Jésus, vous la connaissez, qui fait de cette terre un lieu de perpétuel mouvement, Jésus lui déclara, les renards ont des terriers, des petits coins de terre où ils peuvent s'enfouir, les oiseaux du ciel ont des nids, donc même eux dont le lieu c'est le ciel, ont des lieux où ils peuvent poser leurs petites pattes sur cette terre, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. Le texte ne porte pas le nom de Pierre, n'a pas de pierre où poser sa tête, n'a rien. N'a pas de où, n'a pas de lieu, si on entend ce que signifie le lieu dans la tradition biblique et mystique. Une macombe. Il n'a pas de lieu, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement dans cette terre. Voilà. Et ça, c'est peut-être de l'ordre de la terre de la promesse. Terre qui vous garde toujours à la parcourir. Et vous voyez que le mot n'est pas prononcé. En tout cas, c'est la terre où le repos est mouvement, ou la terre où le mouvement est repos. Alors le troisième texte, lui, il est entièrement centré sur cette question. Et ce n'est pas un hasard s'il remonte au même texte auquel Gilles a abouti, qui est le texte des Nombres. Et ce texte, c'est le texte de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas un hasard peut-être que ce soit le texte de la lettre aux Hébreux qui consacre mais 28 versets, c'est juste colossal, à la question de l'entrée dans la terre à propos d'un commentaire du psaume qui dit « entrer dans le repos ». Et la tradition chrétienne a toujours joint les deux, c'est ça qui m'intéresse, l'idée d'entrer dans le repos, psaume 95, vous entrerez, vous n'entrerez pas, je promets que, je jure que vous entrerez, que vous n'entrerez pas dans le repos. Et elle a joint toujours l'entrée dans le repos, entrer dans la terre. C'est le chapitre 3 et 4, c'est à cheval sur deux chapitres. 3, 7 à 4, 16. Donc le verset du psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de défi, donc c'est la crise du livre des Nombres, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué, alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Alors, en grec, il y a un décalage, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans, donc on se situe dans la version de la Septante, au moment de l'entrée, puisqu'on se situe après les 40 ans. Ils m'ont vu à l'œuvre pendant les 40 ans, alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Je me suis emporté contre cette génération, j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Et donc on est mis par la lecture d'Hébreux, qui est donc de l'Épître aux Hébreux, qui est donc une lecture de disciples chrétiens, juifs et chrétiens de Jésus, discutant probablement, parce que cet épître est probablement le ramassage, la collecte d'un ensemble d'homélies synagogales dans des synagogues où disciples de Jésus et juifs n'étant pas disciples de Jésus se retrouvent encore ensemble, ce qui explique bien que cet épître soit par moments très polémique et par moments très dans le rassemblement, dans une parole commune. Ici, on se trouve devant la question de la génération qui, ayant passé 40 ans au désert, va-t-elle entrer ? C'est-à-dire, cette terre promise, va-t-elle accepter qu'elle soit une terre de la promesse ? C'est-à-dire une terre où il faut vivre libre, pour reprendre les catégories de Gilles Bernheim. Non pas simplement libéré et soumis à ses désirs, mais ils vivent selon la Torah. C'est donc, au fond, la situation, et c'est ainsi que le commentaire, par exemple, d'un auteur qui a un peu la place de Rashi dans la tradition chrétienne, qui est Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qui a accompagné toute l'intelligence chrétienne, sinon des écritures, parce que ces commentaires d'écriture, hélas, n'ont pas été lus, mais en tout cas de la doctrine et de la morale chrétienne. Chez Thomas d'Aquin, c'est très clair que c'est lu en contexte de discours de Moïse au Deutéronome, c'est-à-dire dans la situation d'une fiction spirituelle, mais qui est une fiction littéraire, mais qui n'est pas une fiction spirituelle, où Moïse tient ce discours énorme du Deutéronome, ce qui veut dire deuxième loi, ce qui n'est jamais indifférent pour les lecteurs chrétiens de lire la loi à la lumière d'une loi renouvelée, au moment de l'entrée dans la terre, d'une loi d'intériorisation, c'est-à-dire à ce moment-là, allez-vous entrer ? Allez-vous y vivre ? C'est-à-dire entrer, c'est-à-dire, eh bien, entrer dans le repos, c'est-à-dire entrer dans le travail de la loi, qui est l'étape intermédiaire entre le repos de Dieu à la création et le repos en Dieu à la fin des temps. La seule manière de passer, et c'est le commentaire littéral de Thomas d'Aquin, du repos de Dieu dans ses œuvres à la Genèse, Yijbot, au repos en Dieu dans la bonté de Dieu, qui est la destinée de l'humanité et donc d'Israël, c'est de vivre le travail de la Torah, en particulier de vivre le travail qu'est l'abstention de travail, le Shabbat, donc de garder le Shabbat dans la terre. Et ceci est la compréhension de cette interpellation qui est faite par le psaume, mais à l'époque de David, d'une interpellation faite par Moïse et accomplie par Josué, avec le passage étrange du Deutéronome au livre de Josué, Josué étant le premier prophète, Hoshéa, Deutéronome étant le dernier livre de la Torah, mais donc forcément que le premier des prophètes est encore un petit peu dans le monde de la Torah. D'ailleurs, c'est des personnages, c'est le seul livre prophétique, je crois, dont les personnages sont des personnages qui ont vécu, en tout cas pour Caleb et Josué, qui ont vécu de ce dont parle, de ce que rapporte, de ce qu'enseigne le Pentateuque, la Torah. Mais puisque David le redit, et là le commentaire de Thomas se fait insistant, puisque David le redit bien des siècles après Moïse, dans le psaume, qui reprend le texte du Nombre, mais contrairement à ce qu'on dit, les auteurs du Moyen-Âge sont très conscients de ce qu'est la durée et l'épaisseur historique, puisque David le dit bien des siècles, c'est que la question se repose, alors qu'on est en terre. Aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui. Écouterez-vous sa parole, dit le psaume de David, et l'auteur d'Épître aux Hébreux ajoute que c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'inspirateur des Écritures, qui parle dans le aujourd'hui. Et donc cet aujourd'hui fait réfléchir le commentateur chrétien du Moyen-Âge, mais aussi l'auteur de la lettre aux Hébreux, sur ce que signifie le fait d'une injonction à entrer dans le repos, c'est-à-dire d'entrer dans la terre comme lieu où je peut vivre l'esprit d'une promesse, c'est-à-dire de quelque chose qui va venir mais qui transforme déjà le présent, alors que je suis dans la terre. Et c'est là où se fait le lien avec ce travail qui est le travail, le seul, que Hébreux appelle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle croire avec Jésus, mais qui est en fait d'agir. Croire, c'est faire. Avec quelque chose qui est assez rarement commenté par les commentateurs chrétiens modernes, c'est que pour l'Évangile, croire, c'est faire. Croire, c'est aimer, et aimer, c'est faire, ça c'est clair. Donc il y a croire, c'est faire. Croire, c'est pas autre chose qu'agir. Alors Jacques le dit explicitement dans sa lettre, hein, si ta foi n'agit pas, elle est morte. Mais la lecture post-paulinienne des textes de Paul fait qu'au contraire, non, croire, c'est attendre en dehors de l'action tout de Dieu. Ben non, c'est pas ça en tout cas, ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est la séquence textuelle, c'est-à-dire en comment Hébreux, un auteur qui lui-même est inscrit par la prédication synagogale et dans le canon, qui est inscrit dans l'histoire des textes que commente un groupe de croyants, ici les chrétiens. Hébreux lit le psaume, il le reçoit. Lisant le psaume, ça le renvoie au livre des Nombres. Puisque l'aujourd'hui dont parle David dans le psaume, c'est un aujourd'hui qui a déjà été vécu par la génération du désert. Et du livre des Nombres, l'auteur d'Hébreux a besoin, pour comprendre le fait que David dise aujourd'hui, à une époque qui n'est plus celle de l'entrée dans la terre, mais de la vie dans la terre, il a besoin de retourner à la Genèse, au chapitre 2, le repos de Dieu. Et il combine le texte du psaume avec le texte de la Genèse. Et là, le travail serait à faire dans la précision même du texte. Et c'est cet ensemble qui lui permet de dire à lui, auteur d'Hébreu, à la génération qui est devant lui, qui n'est plus celle de David, qui n'est plus celle de Moïse, comment ce psaume, il a à le vivre par rapport à l'événement que lui célèbre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire que Jésus est devenu le grand prêtre selon le serment fait à Melchisédek. C'est-à-dire un grand prêtre qui reçoit le don d'intercéder, non pas d'une vie généalogique, mais d'une vie de ressuscité. C'est ça qu'il veut dire. Et donc ils ont à adhérer au chemin qu'ouvre Jésus pour eux, comme et à l'image de l'interpellation qui était faite au peuple à l'entrée dans la terre, entrer dans votre relation avec Jésus, grand prêtre, c'est comme entrer dans la terre. Mais c'est aussi comme à l'époque de David, vivre dans la terre et vous appliquer l'aujourd'hui, maintenant, de ce don qui vous est fait de Jésus, grand prêtre, comme grand prêtre de la promesse et grand prêtre promis. Je cite quelques lignes du commentaire de Thomas d'Aquin. C'est au numéro 209 de son commentaire, mais bon, il n'est pas encore traduit en français. Si, il y a des vieilles traductions du 19e siècle. Mais... L'apôtre, il commente Hébreux, dans la suite de toutes ses paroles, fait mention d'un triple repos. Premièrement, il y a le repos de Dieu de ses œuvres. Deuxièmement, qui est pour lui le début de l'histoire. Deuxièmement, il y a le repos temporel que les fils d'Israël obtinrent dans la terre de la promesse. Troisièmement, il y a le repos éternel qui est signifié par ces deux-là, les deux en même temps. Dans l'art biblique de Thomas d'Aquin, très rare chez les chrétiens en cela, il n'y a pas une lecture linéaire des figures, il y a une lecture contemporaine, des figures liées à la création et des figures liées à l'histoire d'Israël, qui sont du même ordre. Alors, je lis encore un petit peu son commentaire et puis on va s'arrêter, c'est bien. C'est pourquoi l'apôtre ajoute, en effet, celui qui est entré dans son repos. Car comme Dieu agit six jours et le septième s'est reposé, ainsi on signifie par six jours le temps présent à cause de son nombre parfait. Bon, six devient nombre parfait, c'est très bien. Donc, celui qui a agi parfaitement se repose le septième jour de ses œuvres comme Dieu des siennes. Alors là, ici, celui qui a agi parfaitement se repose à septième heure, ça devient Jésus au tombeau, qui se repose le Shabbat. Comme Dieu des siennes, mais non de toutes ses œuvres, parce qu'il y a des œuvres perpétuelles, c'est-à-dire voir, aimer, louer. Nuit et jour, et il cite ici l'Apocalypse puis Isaïe, nuit et jour, il n'avait pas de repos, disant saint, 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 etc. Mais se reposant des œuvres pénibles, laborieuses en latin, ceux qui espèrent dans le Seigneur trouveront de la force, ils recevront des ailes comme l'aigle, ils courront, ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne défailleront pas, Isaïe 40. Et je joins à cela un autre texte montrant que pour l'auteur du Moyen-Âge, tout ce qui vient d'être dit est en même temps repris comme toujours à cette époque-là du langage de l'écriture dans le langage de la métaphysique. On trouve ça aussi évidemment chez Maïmonide. La perfection de Dieu, dit Thomas ailleurs, c'est dans la somme de théologie, en réfléchissant au Shabbat de la Genèse, la perfection de Dieu se manifeste au plus haut point en ce que lui-même se repose en sa seule bonté et que nous pouvons nous reposer en jouissant d'elle. Je vous remercie.